Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dernière partie d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain. À 8 jours de la présidentielle aux États-Unis, on va se pencher sur le vote latino au cœur d'une polémique déclenchée après un meeting de Donald Trump et des propos outranciers concernant les hispaniques et les portoricains. On votait en Uruguay hier pour la présidentielle aussi, premier tour, et on analysera les résultats avec notre correspondant dans la région. Avant de retrouver nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, les barrages routiers font désormais partie du quotidien en Martinique.
Ce lundi matin, des barrages sont toujours en place à Petit-Bourg, à Casse-Pilote, au François, à Saint-Joseph, à Fort-de-France. Nous entendrons tout à l'heure le maire du François qui a tenté hier d'aller raisonner les jeunes de sa commune.
À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour, bonjour à tous.
Nous sommes à 8 jours donc de la présidentielle aux États-Unis.
Et 41 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée. Le président Biden doit voter aujourd'hui. Les candidats continuent à labourer les états-clés, ceux qui peuvent faire basculer le scrutin. Kamala Harris ira dans le Michigan dans la journée. De son côté, Donald Trump sera en Géorgie. Hier, à New York, démonstration de force en terre démocrate. Le candidat républicain a fait sale comble. Bonjour Joris Zilberman.
Bonjour.
Un flot d'insultes et de déclarations racistes a émaillé la soirée. Les Portoricains ont particulièrement été visés.
Et oui, et tout est venu de la déclaration à la tribune d'un des chauffeurs de salle de Donald Trump. Il s'agit de l'humoriste Tony Hinchcliffe. Selon lui, je cite, « Il existe une île flottante d'ordures au milieu de l'océan et je pense que c'est Porto Rico ». Tony Hinchcliffe, qui anime le podcast Kill Tony, est connu pour son racisme anti-asiatique depuis 2021, adepte de la théorie du grand remplacement. Il a aussi dénoncé hier soir les latinos en général qui font, selon ses mots, beaucoup de bébés aux États-Unis. Alors sa déclaration sur les Portoricains a provoqué une salve de réactions. D'abord de la part de l'équipe de Kamala Harris, qui venait elle-même de se rendre dimanche dans un restaurant portoricain de Philadelphie où cette communauté est implantée. Réaction outrée de Tim Walz, candidat à la vice-présidence, et de la députée new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez, de parents portoricains, qui étaient tous deux en plein streaming sur Twitch. En outre, plusieurs stars nées à Porto Rico, comme le prince du reggaeton Bad Bunny et Ricky Martin, ont affiché leur soutien à la vice-présidente démocrate. Voilà ce qu'ils pensent de nous. Votez Kamala Harris, a notamment posté Ricky Martin à ses 18 millions d'abonnés sur X. Les Portoricains qui sont désormais le deuxième groupe le plus important de la diaspora latino dans les états-clés de Caroline du Nord, de Géorgie et de Pennsylvanie.
Joris Zilberman du service international de RFI.
Toujours sur le continent, la pénurie d'électricité s'aggrave en Équateur.
Il y a un peu plus d'une semaine, pourtant, le président Daniel Noboa faisait une promesse. Les coupures de courant seraient de moins en moins longues. Elles devaient passer de 8 heures par jour à 6, puis 4 heures. Mais la pluie n'est pas venue, les barrages sont toujours vides. Résultat, les coupures d'électricité sont finalement passées à 14 heures par jour. La vie quotidienne est un combat pour les Équatoriens. Encore plus pour les personnes qui ont besoin de soins. Voici le reportage de notre correspondant à Quito. Éric Sanson est allé à la rencontre de malades du cancer.
Le gouvernement a décidé de ne pas couper l'électricité dans les quartiers entourant les hôpitaux. Le reste du pays en est privé. Paul Ugarte de l'Alliance nationale pour la santé le regrette pour les personnes souffrant de maladies catastrophiques.
Imaginez la situation des malades ayant des appareils respiratoires chez eux ou de ceux qui ont besoin de l'électricité pour se soigner à la maison. Leur situation est très compliquée.
David Pugos est en rémission depuis qu'il a reçu une greffe de moelle épinière, mais beaucoup de ses amis sont encore en traitement. Entre débrouille et solidarité, ils cherchent de l'électricité désespérément.
Certains vont dans des centres de soins ou dans des familles d'amis qui ont du courant, d'autres dans les centres commerciaux. Ils connectent leur appareil à une prise et ils y restent des heures jusqu'à ce que la lumière revienne chez eux.
Une solution pourrait être l'achat de générateurs, mais Sylvia Marigno, de 52 ans, souffrant d'un cancer du sein, n'y croit pas.
Un patient qui está viviendo.
Vous savez, le cancer nous enferme dans la pauvreté. Acheter un générateur, pour nous, c'est très difficile.
Et d'autant plus que les prix des générateurs ont été multipliés par 4 ou 5 et qu'il est pratiquement impossible d'en trouver dans le pays. Éric Sanson, Quito, RFI.
Au Proche-Orient, Israël a mené de nouvelles frappes meurtrières au Liban. 5 personnes ont été tuées dans un bombardement dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du pays. Des roquettes ont été tirées dans le nord d'Israël par le Hezbollah. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes continuent, surtout dans le nord, autour de Jabalia. Pas question de reconnaître les résultats officiels du scrutin. En Géorgie, le parti au pouvoir revendique la victoire aux législatives avec 54% des voix. Pour l'opposition pro-européenne, les élections ont été volées. Une manifestation se tiendra cet après-midi à Tbilissi, un test de mobilisation. Les États-Unis et l'Union européenne demandent une enquête sur le scrutin. Le Kremlin nie toute ingérence.
Le plan est encore plus sévère que prévu en Allemagne. Volkswagen envisage de supprimer des dizaines de milliers d'emplois.
Le premier groupe automobile européen veut fermer au moins 3 usines dans le pays. La crise du secteur symbolise les difficultés de l'industrie allemande. Pascal Thibault, vous êtes à Berlin. Le comité d'entreprise a informé les différents sites ce matin de l'ampleur des projets de la direction. Un plan dénoncé avec vigueur.
Effectivement, la présidente du comité d'entreprise du groupe Volkswagen n'a pas mâché ses mots. Elle a parlé ce matin d'une saignée à blanc aux dimensions historiques pour évoquer les plans de la direction. D'après Daniela Cavallo, la direction du constructeur automobile envisagerait de fermer au moins 3 sites de la marque Volkswagen en Allemagne qui compte 10 usines et 120 000 salariés. La réduction des coûts, le quotidien économique Handelsblatt parle de 4 milliards d'euros, entraînerait la disparition de milliers d'emplois, mais aussi une remise en cause des conditions de travail, pour certains des privilèges, des employés de Volkswagen. Les réductions de salaire pourraient atteindre près de 20% d'après le comité d'entreprise. Des usines, mais aussi des départements de l'entreprise pourraient être délocalisés à l'étranger ou bien confiés à des sociétés extérieures. Volkswagen est la marque déficitaire du groupe qui vend 500 000 voitures de moins en Europe par rapport à l'avant-pandémie. Longtemps, les bonnes affaires du groupe en Chine ont permis de payer l'ardoise, mais elle s'alourdit entre-temps. Avec 2 fois moins de salariés, Toyota, le numéro 1 mondial, produit 2 millions de véhicules de plus que Volkswagen.
Pascal Thibault, en direct de Berlin.
En France, à présent, les députés s'attaquent, après le budget de l'État, à celui de la Sécu.
L'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale commence cet après-midi dans l'hémicycle, avec le même risque de ne pas parvenir à boucler les discussions. Plus de 2000 amendements sont déposés. La copie du gouvernement risque bien, à nouveau, d'être corrigée, y compris par les partis du socle commun censés faire bloc, Victorien Villaume.
Oui, avec un minima 3 sujets de discorde. Le gel des pensions de retraite, d'abord. Pas question de toucher aux retraités, disent la gauche et l'extrême droite, mais aussi donc des députés, les Républicains et Macronistes qui voient là une mauvaise économie. Malaise aussi au sujet de l'alourdissement de certaines charges patronales. 4 milliards d'euros sont en jeu. Mais des députés Ensemble pour la République dénoncent un risque pour la compétitivité des entreprises et quelque part une remise en question de la politique menée depuis 7 ans par Emmanuel Macron. Seront également à surveiller les discussions autour d'une taxe sur le sucre. Le projet intéresse la ministre de la Santé et le ministre du Budget. Sauf que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, étiquetée à droite, est farouchement contre par peur d'une levée de bouclier des agriculteurs. Les débats sur le budget de la Sécurité sociale commencent à partir de 16h, heure de Paris. 2000 amendements à examiner dans des délais très serrés, avec un vote solennel prévu dès le début de semaine prochaine.
Victorien Villaume, du service politique. Enfin, le procès de Gérard Depardieu a débuté sans lui au tribunal de Paris pour raison de santé. L'acteur français assurait pourtant vouloir s'expliquer. Il doit être jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage des Volets Verts en 2021. Le procès pourrait être reporté. Voilà pour le journal, Anne.
Merci, Karine Bellicha. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un prochain journal. Et pour le moment, c'est la dernière partie d'RFI Midi.
USA 2024.
When we fight, we win.
We will make America great again.
RFI Midi. Anne Cantner.
Dernière ligne droite avant la présidentielle aux États-Unis. Il reste 8 jours avant le vote et la course est toujours aussi serrée entre Kamala Harris et Donald Trump. Comme chaque lundi, nous vous proposons d'analyser l'un des enjeux de cette campagne. Aujourd'hui, le vote latino, le vote des hispaniques. Notre invitée pour en parler est maîtresse de conférence à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'immigration et des groupes minoritaires aux États-Unis, notamment donc des latinos. Bonjour Marie-Laure Mallet.
Bonjour.
Alors la question est au cœur du débat politique depuis hier, depuis un meeting de Donald Trump à New York que le New York Times a qualifié de carnaval de griefs, de misogynie et de racisme. Parce que lors de ce meeting, un humoriste a dit ça.
Ces latinos aiment aussi faire des bébés, sachez-le. Oh oui, ils en font. Ils ne pratiquent pas le retrait. Ils ne font pas ça, ils viennent à l'intérieur comme ils l'ont fait pour notre pays. Les républicains sont le parti qui a le sens de l'humour.
Et puis Tony Hinchcliffe s'est aussi illustré en disant ceci.
Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a littéralement une île flottante d'ordures au milieu de l'océan en ce moment. Oui, je crois qu'elle s'appelle Puerto Rico.
Alors, il y a quand même eu un murmure dans la foule, mais pas plus de protestations. En revanche, en dehors du cercle de Donald Trump, les réactions sont très très nombreuses. L'indignation, la récupération politique de la part des démocrates, puisque Kamala Harris immédiatement s'est rendue dans un restaurant portoricain pour marquer le coup. Et puis elle a aussi reçu le soutien de chanteurs de reggaeton ou de Ricky Martin, par exemple, qui sont originaires de Porto Rico. Ça peut changer quelque chose, ce dérapage républicain, selon vous, Marie-Laure Mallet ?
Oui, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, aujourd'hui, les électeurs latinos sont une force démographique très, très, très puissante aux États-Unis. On a là aujourd'hui, en 2024, 36 millions de votants potentiels latinos. Et donc, c'est une force qui n'est absolument pas négligeable pour les élections. Donc, effectivement, oui, je pense que ça pourrait tout à fait avoir un impact sur les élections. C'est encore assez difficile à dire.
Vous nous le disiez, ce qu'on appelle les Latinos, c'est une communauté qui est très importante. On parle à la fois d'immigrés et d'enfants, voire de petits-enfants d'immigrés qui sont originaires de pays très différents. Le Mexique, bien sûr, mais aussi des immigrés plus récents qui viennent du Venezuela, du Honduras, du Guatemala. Entre 2020 et aujourd'hui, les Latinos sont devenus la première minorité ethnique. Ils représenteront un vote sur sept la semaine prochaine. Alors ça, c'est la théorie, si je peux dire, c'est les personnes qui ont le droit de voter, mais est-ce qu'on sait si elles se mobilisent effectivement, Marie-Laure Mallet ?
Alors ça, c'est la grande question, parce qu'en fait, effectivement, le nombre d'électeurs potentiels a augmenté, mais en fait, on ne sait pas si l'impact de ce poids électoral va vraiment se réaliser, parce que leur taux de participation, de façon générale, même s'il a augmenté ces dernières années, est quand même inférieur à celui d'autres groupes ethniques. Donc voilà. Ce sera vraiment la grande question de cette élection. On ne sait pas encore si les électeurs potentiels vont effectivement aller voter.
Et est-ce qu'il existe un vote latino comme il existe par exemple un vote noir, a priori plutôt pour les démocrates, même si ça s'érode depuis quelques années ?
Alors non. Donc en fait, on parle généralement du vote latino, mais en fait, c'est pas du tout un bloc qui est homogène. Au contraire, les latinos représentent vraiment une très très grande diversité dans leurs comportements électoraux, parce que on a des différences en fonction de l'origine nationale, par exemple, mais aussi du statut socio-économique ou même des générations, comme vous le mentionniez. Les Cubains américains, par exemple, en Floride, ont plus tendance à pencher du côté républicain, même si ça commence à changer un petit peu. Par contre, les Mexicains, enfin les Mexicains américains ou les Portoricains, eux, s'alignent plutôt généralement avec les démocrates. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les jeunes latinos sont en fait de moins en moins partisans. Donc ces nouveaux électeurs qui arrivent aujourd'hui. Et que, alors on voit surtout qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, ce qui est assez intéressant. Les hommes latinos soutiennent davantage les politiques républicaines que les femmes, notamment les questions économiques. Donc ce sera intéressant de voir dans cette élection comment ça se traduit.
Et sur ce vote masculin, le New York Times, par exemple, avait titré il y a deux semaines l'appel macho de Trump aux latinos et aux hispaniques. Vous avez parlé aussi de la situation économique. Les latinos sont surreprésentés parmi les ouvriers. Est-ce que ça veut dire, ce que vous mentionniez, que les considérations économiques prennent le pas sur un certain nombre de considérations dites ethniques ?
Oui, parce qu'en fait, les républicains promettent des mesures vraiment axées sur la croissance économique, mais aussi la sécurité, le soutien aux petites entreprises. Et ces jeunes générations, ces jeunes latinos qui vont maintenant voter, tout ce qui est question immigration, ça les touche, mais beaucoup moins directement, parce qu'ils sont nés aux États-Unis, sont des citoyens américains. Et donc, vraiment, ce qui les intéresse, c'est leur situation au jour le jour. Donc, la situation économique, l'inflation aussi, qui est pour eux est très important. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde le bilan économique de l'administration Biden, on pense à la hausse du coût de la vie, peut-être aussi le chômage après la pandémie du Covid qui a beaucoup affecté les Latinos. Et je pense que les Latinos, malheureusement, penchent plutôt en faveur des Républicains concernant tout ce qui est l'économie et voilà, l'emploi, le plein emploi, etc.
D'ailleurs, les intentions de vote pour Kamala Harris sont bien moins importantes que pour Joe Biden en 2020. Est-ce qu'elle, la candidate démocrate, a adapté son discours pour tenter d'inverser la tendance ?
Alors oui, elle a tenté d'utiliser. Alors, c'est vrai qu'elle a quand même, elle est quand même l'héritière l'administration de Biden, mais elle a quand même essayé, notamment de promettre des réformes sur tout ce qui est question de migration, d'avoir une approche un peu plus humaine. Donc ça, effectivement, elle a essayé de renforcer ce discours-là. Mais bon, c'est pas nécessairement ce qui les préoccupe le plus. Enfin, en tout cas, les nouvelles générations.
Donc, vous nous l'avez dit, une tendance plutôt à voter pour Donald Trump. On le sait, le candidat républicain est un adepte des fake news. Il a multiplié les déclarations mensongères au cours des dernières semaines, enfin des dernières années, mais là encore plus ces dernières semaines. Or, les études montrent que les Latinos utilisent davantage que les autres les réseaux sociaux pour s'informer, avec donc des risques sur ce point-là, d'autant plus qu'il n'y a quasiment pas d'outils de fact-checking en espagnol. Est-ce que ça a des conséquences, selon vous, sur cette campagne et sur les intentions de vote ?
Oui, c'est tout à fait possible, parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une corrélation avec, par exemple, on parlait tout à l'heure du fait que les hommes latinos voteraient davantage ou auraient plutôt tendance à soutenir les républicains. Et en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes au niveau du niveau d'études. Et on voit par exemple que les femmes sont davantage éduquées que les hommes latinos. Et donc ça peut effectivement avoir un impact, parce que effectivement, si les gens ne prennent pas la peine de vérifier les informations, de retweeter ça peut effectivement avoir un impact sur les élections.
Vous nous l'avez dit, les latinos sont proportionnellement plus jeunes et moins affiliés à un parti. Est-ce que, dans ce contexte, ça a encore du sens pour les candidats de s'adresser à eux en tant que tels ? Et est-ce qu'ils le font même ?
Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est assez compliqué, parce qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Ce terme de pan-ethnique de latino est un terme qui est utilisé très fréquemment pour faire référence à ces différents groupes nationaux. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'à partir de la deuxième, de la troisième génération parfois aussi, l'identité nationale tend à diminuer. Et donc, c'est vraiment cette image qu'il y aurait en fait un vote latino ou une communauté latino qui prend le pas. Et ce sont c'est malheureusement quelque chose qui est assez... c'est assez fréquent, notamment dans les census, le census américain, le recensement, c'est une catégorie qui existe. Et donc, effectivement, les hommes politiques, aujourd'hui, même dans la campagne présidentielle, ont plutôt tendance à parler aux latinos en général. Alors, Kamala Harris essaye d'aller dans les États un peu clés, les nouveaux États dans lesquels les Latinos se sont implantés, l'Arizona, le Nevada ou la Pennsylvanie, parce que ce sont dans ces États en fait que leur vote pourrait être décisif et faire basculer l'élection.
Je vous remercie beaucoup, Marie-Laure Mallet, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'immigration et des groupes minoritaires aux États-Unis. Il est 8h19 à New York et à Washington, et à l'approche de cette élection américaine, nous vous proposons toute cette semaine des regards étrangers avec nos correspondants, notamment à propos là du conflit au Proche-Orient, qui ont été beaucoup évoqués au cours de la campagne électorale américaine. On va en parler avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. ce conflit au cœur de la campagne, et c'est aussi vrai de l'autre bout de la lorgnette.
Oui, l'actuelle administration américaine est sans conteste la plus favorable pour Israël de toute l'histoire de l'État hébreu, même si les dirigeants israéliens ne sont pas prêts à le proclamer à haute et claire voix. Joe Biden a soutenu Israël ces derniers mois, même si parfois il n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper des mots très durs à l'égard du Premier ministre israélien. Mais Biden s'est toujours déclaré sioniste. Clairement, Kamala Harris tente de se détacher de cette étiquette. Elle multiplie parfois volontairement, parfois sous forme de lapsus, des déclarations moins favorables. Récemment, elle a acquiescé lorsqu'un manifestant a parlé de génocide à Gaza, puis elle a tenté de faire machine arrière. Donald Trump, lui, se vante de s'entretenir chaque jour avec Netanyahou. Il a affirmé qu'il avait de très bonnes relations avec le Premier ministre israélien. Mais en Israël, on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il avait affirmé que Bibi l'avait laissé tomber et que son ministre de la Défense était, passez-moi l'expression, un connard.
Beaucoup de prudence en Israël face à ces élections au sein de la classe politique.
Alors, on peut résumer les choses de la façon suivante. Netanyahou marche sur des œufs pour ce qui est des élections aux États-Unis, mais il est clair cependant qui est son candidat de prédilection. Ce n'est pas le cas pour une partie de sa coalition qui s'affiche ouvertement en faveur de Donald Trump, notamment les ministres d'extrême droite Ben Gvir et Smotrich. Mais tous les spécialistes ici en Israël tombent d'accord sur un point. Au lendemain des élections US et jusqu'à l'intronisation du nouveau président américain, et quels que soient les résultats, Joe Biden sera le « lame duck », le canard boiteux, selon l'expression consacrée, et la confrontation entre Biden et Netanyahou autour de la guerre à Gaza, au Liban et ailleurs au Proche-Orient risque d'atteindre son paroxysme.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem.
RFI Midi.
On prend maintenant la direction de l'Uruguay. On votait hier pour le premier tour de la présidentielle. En tête, le candidat de gauche, Yamandou Orsi, qui a obtenu près de 44% des voix. Il sera opposé au second tour au bras droit de l'actuel président, Álvaro Delgado, qui a remporté, lui, 26% des suffrages. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Correspondant de RFI dans la région. Alors, l'écart entre les deux candidats semble sans appel après ce premier tour, et pourtant, le second tour sera très certainement serré.
Oui, car si Yamandou Orsi reste favori et s'est félicité que son parti, le Frente Amplio, soit arrivé en tête hier soir, son concurrent au second tour, Álvaro Delgado, devrait largement bénéficier des reports de voix. Les partis de la coalition de droite actuellement au pouvoir sont arrivés en ordre dispersé en présentant chacun un candidat, mais hier soir, ces derniers sont tous montés sur scène aux côtés d'Álvaro Delgado, qui a réaffirmé la solidité de la coalition.
Empezamos hoy otra etapa.
Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étape. Les urnes ont parlé. L'Uruguay s'est exprimé démocratiquement et librement. Et ce soir, la coalition est le projet politique qui a reçu le plus de voix dans notre pays.
Quel est le profil des candidats qui s'affronteront au second tour ?
Eh bien, d'un côté, il y a donc Yamandou Orsi, c'est un professeur d'histoire de 57 ans qui a dirigé pendant deux mandats le deuxième département le plus peuplé d'Uruguay. C'est le dauphin de l'ex-président José Mujica et il défend, je cite, « un progressisme pragmatique ». Face à lui, Álvaro Delgado est un vétérinaire de 55 ans avec un profil conservateur. Pendant quatre ans, il a été le secrétaire général de la présidence et donc le bras droit de l'actuel chef de l'État, Luis Lacalle Pou, et il incarne à ce titre une forme de continuité avec le gouvernement actuel.
Alors hier, il y avait aussi des élections législatives, Théo. À quoi va ressembler le Parlement uruguayen ?
Eh bien, c'est un Parlement qui va être profondément divisé, ce qui risque de compliquer la tâche de celui qui remportera l'élection présidentielle. Avec 16 sénateurs, le Frente Amplio obtient une courte majorité d'un siège à la Chambre haute, tandis qu'à la Chambre des députés, en revanche, ni la gauche ni les partis de la coalition de droite n'atteignent le seuil des 50 représentants et donc la majorité.
Et en parallèle des élections générales, les Uruguayens se sont aussi exprimés par référendum cette fois sur deux projets de réforme de la Constitution. Et tous les deux ont été rejetés.
Oui, le premier projet de réforme consistait à autoriser les perquisitions nocturnes à domicile afin de lutter contre le crime organisé. Il avait été impulsé par la coalition au pouvoir pour essayer de reprendre la main sur le thème de l'insécurité, la principale préoccupation des Uruguayens, sur lequel le bilan du gouvernement est plutôt mitigé. Ce projet de réforme a néanmoins été rejeté, vous l'avez dit, par 61% des électeurs, tout comme celui sur la sécurité sociale, qui proposait notamment de ramener l'âge de départ à la retraite de 65 à 60 ans et d'interdire les régimes de retraite privée. Cette proposition de réforme issue de la centrale syndicale, le PIT-CNT, avait beaucoup divisé pendant la campagne en raison de son coût fiscal notamment, et n'était d'ailleurs soutenue par aucun des deux candidats qui s'affronteront au second tour de la présidentielle le 24 novembre prochain.
Théo Conscience, correspondant de RFI dans la région.
RFI Midi.
On vous retrouve maintenant, Benoît Ferrand, pour parler de l'actualité des Outre-mer françaises et d'abord de la Martinique, où les barrages routiers et les voitures incendiées font désormais partie du quotidien.
Oui, mobilisation militante contre la vie chère ou action d'éléments, on va dire, incontrôlés. Dans l'un ou l'autre cas, le résultat est le même, des barrages. Ce lundi matin, à Petit-Bourg, Casse-Pilote, au François, à Saint-Joseph, à Fort-de-France. Écoutez le témoignage de Samuel Tavernier, le maire de la commune du François. Il a tenté hier d'aller ramener à la raison les jeunes de sa commune.
Nous, les maires, en fait, nous ne pouvons faire que nous ne pouvons que limiter la casse. Vous voyez, limiter la casse et panser les plaies. Et voilà ce que je suis en train de faire au niveau du François, demander aux jeunes, eh bien, de ne pas racketter, de ne pas incendier, de ne pas piller. Vous voyez, c'est tout ce qu'on peut faire parce qu'il y a une absence totale des forces de l'ordre. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui un pays qui a été pris en main par le mouvement. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus personne. Plus personne ne répond. Hier soir, j'étais au chevet d'une dame. Il y a eu une voiture qui a brûlé près de chez elle. Et bien, elle était en panique totale. Elle a appelé la gendarmerie, les pompiers. Personne n'est venu. Je suis pratiquement impuissant parce que derrière, il y a, le terrain est laissé et délaissé par ceux qui devaient le protéger.
Samuel Tavernier, maire de la commune du François en Martinique, au micro de Pedro Monerville. En Guadeloupe maintenant, c'est un autre conflit qui fait beaucoup parler de lui, la grève à EDF. Grève couronnée entre guillemets par ce blackout qui a duré presque 48 heures de vendredi à dimanche pour certains clients. Reportage dans la zone artisanale et commerciale de Jarry à Pointe-à-Pitre, signé Alexandre Houda.
Une salle bien dressée, mais vide de clients. Voilà maintenant plusieurs semaines que le restaurant Le Sama à Jarry doit faire face à ce triste spectacle. Depuis le début, des délestages électriques, près de 15 000 euros de manque à gagner ont été déplorés ici. Avec le dernier blackout total, environ 4 000 euros de marchandises stockées dans les réfrigérateurs ont dû être jetées. Plus de 23 heures sans électricité. La goutte de trop pour Patrice Carion, gérant de l'établissement.
J'en peux plus, j'en ai vomi de rage, de colère, j'ai la haine, quoi. Après, je peux comprendre que les gens, ils aient des indication, mais c'est pas en m'ennuyant à moi que ça va résoudre le problème.
Dans une boulangerie-pâtisserie à quelques centaines de mètres de là, les pertes sont tout aussi impressionnantes. Gabriel Foy, gérant de la structure, est à deux doigts de jeter l'éponge.
Aujourd'hui, j'ai plus cette envie. J'ai plus cette envie de former, j'ai plus cette envie de travailler parce que j'en ai vraiment marre de voir que Jarry, qui est le poumon économique de la Guadeloupe, à chaque fois on est pris en otage. On n'a même pas la force d'embaucher des contrats d'apprentissage aujourd'hui parce qu'on ne sait pas demain matin où on va.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. De la musique avant de se quitter. Et Bruce Springsteen avec cette reprise de Don't Play That Song, un titre de Benny King, composé dans les années 60.
Don't play that song for me. Though it brings back sweet memories of the days that I once knew, of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away.
you told me that you loved me, and you told me that you cared. You said you'd go with me, darling.
Et c'est ainsi avec la voix du boss que se termine RFI Midi, émission réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 11h30, temps universel. Et tout de suite, de vive voix avec Pascal Paradou.